Radio Prague, les informations. Bonjour. Suite à la fusillade meurtrière de mardi à Uherský Brod, le ministère de l'Intérieur envisage de permettre à tous les médecins d'accéder au registre des armes. Le Premier ministre tchèque s'est rendu à la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et puis enfin, nouvelle un peu plus positive, le vin serait la plus belle des boissons, selon le président Zeman. Les médecins tchèques pourraient accéder directement au registre centralisé des armes. Ils pourraient ainsi apprendre si leur patient détient un permis de port d'armes. C'est du moins ce qu'envisage le ministère de l'Intérieur en réaction à la fusillade dans un restaurant d'Uherský Brod en Moravie mardi qui a fait 9 morts, dont le tireur. Actuellement, seuls les médecins généralistes ont accès à ces informations et pas les spécialistes ou les psychiatres. Selon les informations disponibles suite au drame de mardi, le meurtrier était malade psychiquement. 8 personnes, rappelons-le, 7 hommes et une femme, ont été tués par un homme qui a ouvert le feu dans un restaurant de la ville donc d'Uherský Brod, dans l'est du pays, près de la frontière avec la Slovaquie. Après son geste, l'auteur de la fusillade, qui avait un casier judiciaire vierge et était âgé de 62 ans, a retourné l'arme contre lui et s'est donné la mort. Ce mercredi, le ministre de l'Intérieur, Milan Chovanec, a toutefois précisé que la police devait encore définir si l'homme était bien le propriétaire des 2 pistolets qu'il a utilisés et s'il était le propriétaire d'un permis de port d'armes. En fin d'année dernière, un peu plus de 292 000 détenteurs de port d'armes étaient recensés et 752 000 armes, on va y arriver, circulaient légalement en République tchèque. Diplomatie, en visite officielle en Corée du Sud, le Premier ministre Bohuslav Sobotka s'est rendu ce mercredi dans la zone démilitarisée qui sépare la Corée du Sud de la Corée du Nord. Selon la correspondante de l'agence de presse CTK, les mesures de sécurité étaient telles que les membres de la délégation tchèque ont été avertis de ne pas rire et de ne pas gesticuler en direction du pays voisin. Le chef du gouvernement a également visité le lieu où l'accord de l'armistice avait été signé en 1953. Depuis cette année, une commission d'État neutre surveille cet espace qui est parmi les plus gardés au monde. La Tchécoslovaquie en a fait partie jusqu'en 1993 aux côtés de la Suède, de la Suisse et de la Pologne. Après 1993, la Corée du Nord n'a toutefois pas accepté la présence de la République tchèque en tant qu'État successeur de la Tchécoslovaquie. Social, les employés tchèques en arrêt de travail sur prescription médicale pourraient de nouveau toucher les indemnités lors des 3 premiers jours de leur arrêt pour compenser la perte de leur salaire. Le Sénat, grâce notamment au vote des représentants des partis de gauche, a soutenu en première lecture ce mercredi le projet allant dans ce sens, un projet présenté par le Parti social-démocrate, une des 2 principales formations de la coalition gouvernementale. Le versement d'indemnités pour les 3 premiers jours d'un arrêt maladie a été supprimé, rappelons-le, par le gouvernement du libéral Mirek Topolánek en 2008. Toutefois, selon la nouvelle norme envisagée, le montant des indemnités versées les 3 premiers jours serait inférieur à celui versé les jours suivants de l'arrêt. Par ailleurs, le projet, qui ne fait pas l'unanimité au sein du gouvernement, ne précise pas qui de l'État ou des employeurs versera ces indemnités des premiers jours. L'État tchèque estime à 2,5 milliards de couronnes, soit près de 90 millions d'euros, le montant annuel de son manque à gagner, conséquence de la vente illégale de vin dans le pays. Les chiffres ont été communiqués par le président de la Fédération nationale des viticulteurs ce mercredi. Selon l'étude réalisée, quelques 100 millions de litres de vin sont vendus chaque année en République tchèque sans être déclarés. Vendus dans environ 30 000 endroits différents dans le pays, le vin en barrique est mise en cause par les autorités. Il s'agit à la fois de vins produits en République tchèque comme de vins importés au noir pour remédier à la situation et empêcher également la falsification courante. Le ministère de l'Agriculture a annoncé la semaine dernière qu'il envisageait de limiter la vente de vins en barrique. Et puis vin toujours, mort aux abstinents et aux végétariens. Jamais à un bon mot près, c'est ce qu'a lancé le président tchèque Miloš Zeman au moment de trinquer ce mercredi au château de Prague, alors qu'il recevait les viticulteurs récompensés dans le cadre du salon des vins, selon le chef de l'État, de bonne humeur selon les témoins, et tant mieux pour lui. Le vin est, je cite, la plus belle des boissons au monde, et un homme entendait un être humain qui n'a jamais visité la moindre cave et jamais entendu de musique folklorique n'est pas un homme de qualité. Toujours selon Miloš Zeman, le vin est une boisson qui se produit avec le cœur. Dans le cas contraire, il s'agit de piquette qui est vendue aux Pragois, et tant mieux pour eux, a conclu le président de la République. Allez, on termine avec un mot de météo. Ce n'est pas encore le retour du printemps, mais cela y ressemble un peu. C'est en effet un temps largement ensoleillé qui règne sur une grande moitié ouest du pays ce jeudi. Jeudi qui est le jour de la fête des Dorota, entendez Dorothée en français. En revanche, le ciel est plus couvert en Moravie et en Silésie, avec quelques gouttes qui se transforment en flocons de neige au-dessus de 600 mètres. Heureusement pour les Moraves, ils ont donc le vin. Quant aux températures, elles varient entre 4 et 9 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. J'ai eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de votre magazine d'actualité tchèque. Merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Au sommaire de ce mercredi, les préparatifs de la loi sur le financement des partis politiques, cette loi faisant partie des mesures anticorruption promises par la coalition gouvernementale. David Ondráčka, président de la branche tchèque du Transparency International, a commenté pour Radio Prague ce projet de loi. Puis nous allons changer d'horizon avec Alžbeta Ticha. Nous parlerons du retour des loups dans la nature tchèque. Tous les amateurs de loups ont donc de quoi se réjouir et pourront découvrir les détails dans quelques instants. Enfin, la rubrique Histoire a été conçue ce mercredi par Pierre Maignan pour rappeler le 150e anniversaire depuis la première conférence de Gregor Mendel, père fondateur de la génétique à Brno. Bonne écoute à toutes et à tous. L'été dernier, le ministère de l'Intérieur a rédigé un projet de loi sur le financement des partis politiques, un texte supposé confirmer l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la corruption. Le projet en question a été débattu lundi par les responsables des trois partis de la coalition. Président de la branche tchèque de Transparency International, David Ondráčka, commente pour Radio Prague les contours de cette nouvelle législation. Le ministère de l'Intérieur et Jiří Dienstbier, responsable du Conseil législatif au gouvernement, ont enfin présenté au Conseil des ministres l'amendement à la loi portant sur le financement des partis politiques. Enfin, parce que le texte avait déjà été débattu à l'automne dernier, et enfin toujours parce que la République tchèque a été critiquée pour l'absence de cette loi par le GRECO, le groupe d'États au Conseil de l'Europe contre la corruption. En effet, parmi les 220 États dont la législation prévoit un contrôle du financement politique, seuls trois, la République tchèque, l'Allemagne et la Barbade, en laissent le soin au Parlement. La nouvelle loi envisage donc la création d'un bureau de contrôle indépendant. David Ondráčka décrit le rôle de celui-ci.
Ce bureau indépendant doit contrôler tous les d'argent et tous les sponsors qui contribuent à partis politiques. Ce bureau doit faire contrôle sur l'audit, sur le financement de partis politiques. Le changement est que maintenant, ce contrôle est fait par le Parlement et il manque d'indépendance.
Aucune institution déjà existante ne semble être adaptée pour se voir accorder cette compétence de contrôle. En des adeptes, l'Office de contrôle suprême est limité par la Constitution à la surveillance de l'argent public et non pas à celle du financement privé. C'est la raison pour laquelle les partis de la coalition gouvernementale se sont entendus sur la création d'un bureau de contrôle indépendant. Néanmoins, les divergences de vues concernent la taille et la composition de cet organe. David Ondráčka a une idée.
Je pense que nous cherchons un bureau qui est petit. La composition de ce bureau est par les juristes, auditeurs et peut-être économistes. Mais le plus important est vraiment que le chef de ce bureau est la personne indépendante qui n'est pas connectée avec le parti politique et qui peut exécuter ce travail indépendant et avec efficacité.
Les contours de la loi restent encore à définir. Néanmoins, il semble acquis qu'elle contraindra les partis à posséder des comptes bancaires transparents dont seules les transactions relatives au salaire des employés seraient exclues. Les rapports annuels sur les recettes et les dépenses devraient être mis en ligne. L'instauration d'un montant maximal pour les dons aux partis est également envisagée. Le Parti social-démocrate est favorable à l'interdiction totale des dons des entreprises et au plafonnement des dons des personnes privées. Sur ce point, le Parti civique-démocrate, formation de droite, membre de l'opposition, le rejoint. En revanche, le mouvement ANAN, principal partenaire de coalition de la social-démocratie, refuse de fixer une limite à la générosité des entreprises tant que celles-ci montrent patte blanche et payent leur impôt sur le revenu. Outre ces mesures, qui pour l'heure divisent donc encore la coalition gouvernementale, certains points manquent dans le projet de loi, comme le constate le président du Bureau tchèque de Transparency International.
Nous sommes, je pense, au chemin positif. Mais je manque les règles sur la campagne électorale parce que notre expérience est qu'il y a beaucoup de tricks, beaucoup de choses qui sont utilisées pour donner de l'argent à un parti politique pendant la campagne ou après la campagne. Alors, je veux voir plus stricte réglementation sur la campagne électorale.
Le texte de loi prendra sa forme finale après une consultation avec tous les ministères. Il devrait être soumis à l'approbation du Conseil des ministres cet été avant d'atterrir sur le bureau des députés à l'automne. Après plus de 140 ans d'absence, les loups sont de retour dans le massif de la Šumava. Ce parc national, situé au sud-ouest de la République tchèque, met en place un projet zoologique afin de réintroduire ces canidés dans leur milieu naturel. Dans ce cadre, deux loups viennent d'être installés dans un enclos spécial construit près du village de Srni. Nous écoutons Alžbeta Ticha.
Largement présent sur le territoire tchèque jusqu'au début du 19e siècle, le loup a été expulsé définitivement en 1874. Même si quelques individus sont observés occasionnellement depuis les années 1990, la présence permanente de l'animal n'est pas attestée et ses apparitions sont imputées à sa migration depuis les pays voisins. Directeur adjoint du Parc national de la Šumava, Miloš Juha, présente un nouveau projet qui vise à la réintroduction du loup sur ce territoire.
Dans un premier temps, nous avons commencé avec l'observation de différentes espèces dans la Šumava. Le projet initial concernait les cerfs, puis nous avons élargi le projet à d'autres animaux. Ainsi, nous avons assisté par exemple à la réintroduction du lynx qui a été couronné de succès. Et le projet actuel aspire à la réintroduction des loups. Néanmoins, leurs déplacements seront bien contrôlés et très limités.
Le projet s'efforce d'introduire ces animaux dans leur milieu naturel grâce à un enclos spécial qui permettra d'observer leur vie en liberté dans la nature. Mais le Šuha précise que l'intérêt des visiteurs est pris en compte.
Les loups disposeront désormais de 4 hectares. Il s'agit très probablement du plus grand enclos de République tchèque et il est également très intéressant pour les visiteurs. Ceux-ci peuvent se balader sur une passerelle longue de plusieurs centaines de mètres qui se trouve dans un cadre naturel très intéressant, entouré d'une forêt avec des rochers. Grâce à une clôture discrète, le visiteur aura l'impression de se promener librement dans la nature et pourra en même temps observer les loups.
Un loup du jardin zoologique de Plzeň et une louve venue de la Bavière voisine sont supposés créer une nouvelle meute qui devrait compter à terme 10 individus. Selon Juha, l'objectif principal de ce projet est de fonder une nouvelle génération de loups vivant dans leur milieu naturel.
Le projet sera hotovi až někdy koncem léta letošního roku.
Ce projet s'achèvera grosso modo à la fin de l'été. Mais la phase la plus importante, la véritable début du projet, vient d'avoir lieu. Nous avons déjà trouvé deux loups qui doivent se rencontrer maintenant durant leur période d'accouplement pour assurer la plus grande probabilité d'avoir des louveteaux au printemps.
Pourtant, ce centre zoologique ne constitue qu'une des formes de réinsertion des loups sur le territoire tchèque. Les pièges photographiques, par exemple, indiquent que les loups venus des pays voisins font des incursions de plus en plus fréquentes en République tchèque, surtout au nord du pays. Expert pour la protection des grands carnivores, Miroslav Kutal de l'association écologiste Hnutí Duha souligne le rôle important des loups et estime qu'une réapparition pérenne n'est pas impossible.
Le fait que les loups reviennent sur les territoires où ils ont été exterminés n'est pas nouveau en Europe. Cela se produit d'une part grâce au regard plus positif des gens sur ces animaux et d'autre part en raison de l'exode rural dans certaines régions. Leur rôle principal est notamment lié à la régulation de la population des cerfs, des chevreuils et des sangliers qui prolifèrent sans prédateurs naturels et causent de nombreux problèmes. Ils empêchent en particulier les forêts de se renouveler. Les sangliers causent également des dommages dans l'agriculture. Bien sûr, les loups ne sont pas la solution à tous les problèmes, mais ils peuvent aider les gardes-chasse et les gardes forestiers à s'occuper de notre nature.
Les spécialistes attendent le retour des loups avec impatience en assurant que ces animaux craintifs ne représentent aucun danger pour les gens et profitent tout au contraire à l'écosystème.
Ainsi se terminent nos faits et événements, mais restez en notre compagnie pour un nouveau chapitre de l'histoire. La ville de Brno célèbre le 150e anniversaire des deux conférences données le 8 février et le 8 mars 1865 par Johann Gregor Mendel. Le moine et botaniste présentait alors les résultats de ses travaux sur l'hybridation des plantes, posant ainsi les bases d'une théorie de l'hérédité et de ce qui allait être plus tard s'appelait la génétique. Chercheur au CNRS au sein de l'Institut des sciences biologiques Charles Offray, auteur d'un article sur Gregor Mendel pour l'Observatoire de la génétique, a répondu aux questions de Pierre Maignan.
Chapitre de l'histoire.
Plusieurs idées quelque peu erronées circuleraient à propos de Gregor Mendel. Il n'est pas ce chercheur isolé dans son monastère, réalisant loin à l'écart de la communauté scientifique des travaux qui allaient s'avérer d'une très grande importance. Charles Offray rappelle ainsi qu'au contraire, Gregor Mendel, qui naît en 1822 à Inchitze en Silésie, commune appelée en allemand Einzendorf et qui se situe alors dans l'Empire d'Autriche, va évoluer dans un univers propice au développement des sciences naturelles, puisque la ville de Brno, la capitale régionale, est un centre européen à la pointe dans ce domaine.
Quand on regarde l'historique, ça remonte aux années 1820, et là on est dans le contexte de l'Empire austro-hongrois, et on a confié, il y a dans cette ville, toute une activité qui est celle d'associations, de personnes qui sont intéressées à toutes les questions liées à l'agriculture et à l'économie, qui débattent des questions qui vont être à l'origine en fait des travaux de Mendel. Il y a déjà il y a une culture locale de débats scientifiques, économiques, culturels très actives. C'est d'ailleurs devant ces sociétés que Mendel viendra ensuite présenter ses mémoires. Et puis deuxièmement, il y a le mandat, donné par l'Empire au monastère de Brno d'avoir une activité d'enseignement supérieur.
Issu d'une famille modeste de paysans dont la langue est l'allemand, Gregor Mendel est doué pour les études. Il reçoit un enseignement au lycée d'Opava et ne doit renoncer aux études universitaires que faute de moyens suffisants. Mendel est donc envoyé au monastère augustin de Saint-Thomas à Brno, où il pourra continuer à enrichir ses connaissances et développer sa passion pour les sciences naturelles.
Oui, mon père, je suis paysan, fils de paysan, et j'étudie les sciences naturelles.
Bravo, j'aurai enfin quelqu'un à qui parler de mes plantes. Venez voir, j'ai plusieurs variétés de haricots et de petits pois, c'est intéressant.
Pour parachever sa formation, le jeune homme, qui est bientôt fait moine, s'installe en 1851 à Vienne, où il suit les cours de professeurs de renom, comme le mathématicien Christian Doppler ou le botaniste Franz Unger. Ses connaissances en matière de mathématiques ou de sciences physiques lui permettent de développer une méthodologie novatrice en botanique, ainsi que l'indique le généticien Charles Auffray.
Ça se reflète dans la manière dont il écrit ses rapports. Ce sont des rapports de physiciens et d'ingénieurs avec des tables, des chiffres, des mesures numériques. Par ailleurs, les grands noms de l'agriculture, de la biologie, de la botanique de l'époque font des compilations descriptives avec beaucoup d'images colorées et ils passent en fait à côté de l'aspect numérique des mesures que pourra faire Mendel.
Fort de sa connaissance parfaite des travaux de ses prédécesseurs, notamment dû à la richesse de la bibliothèque du monastère où il est de retour en 1854, Mendel lance plusieurs recherches sur l'hybridation de différentes espèces et parmi elles, de façon bien connue, sur les petits pois.
Que vas-tu nous planter, là ?
Et des petits pois, mon père.
Et là ?
Et des petits pois, là aussi, des petits pois.
Ça fera beaucoup de petits pois, mon fils.
Il en faut des milliers pour mon expérience.
Sa première préoccupation, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie du développement. Comment se développe un organisme depuis la fécondation jusqu'à la formation de l'organisme adulte et avec, de manière sous-jacente, en écho aux discussions des sociétés locales, la question de l'hérédité. Et c'est par ce biais-là qu'il devient un des pères fondateurs de ce qu'on appelle ensuite la génétique.
Le modèle de Mendel permet d'expliquer pourquoi certains caractères observés dans une génération peuvent disparaître et ne réapparaître qu'après plusieurs générations. Ainsi, on découvrira plus tard l'existence de gènes dominants ou récessifs, et en 1900, le botaniste allemand Karl Korenz nommera loi de Mendel les lois de l'hérédité en hommage à son prédécesseur.
Puis, dans le corpus des botanistes, des informations qui préexistaient, à savoir, c'est tout le problème des caractères visibles et invisibles, qu'on appellera ensuite le phénotype et le génotype. Et il a l'intuition et la chance aussi de choisir des caractères qui sont indépendants les uns des autres et qu'il peut distinguer de manière tout à fait stricte la couleur, la forme, et qu'il peut ensuite quantifier. Ce que ses contemporains ne font pas de la même manière, à tel point que des grands noms de l'époque font le même genre de croisement entre les différentes sortes de plantes, collectent des données, il y a même d'ailleurs les chiffres dans leur rapport, mais ils ne prêtent pas attention à la méthode d'analyse de ces chiffres et ils ne sont pas capables, comme le fait Mendel, de distinguer ces rapports caractéristiques qui ensuite il interprète pour montrer qu'il y a des règles de transmission héréditaire des caractères.
Les caractères des plantes sont transmises par des particules séparées, deux pour la couleur, deux pour la forme, deux pour la taille. Certaines particules dominent. Regarde, c'est évident, le jaune domine, c'est un caractère dominant.
Un autre mythe concernant Mendel serait lié à l'oubli dans lequel seraient tombés ses travaux jusqu'à la fin du XIXe siècle. En réalité, ses résultats sont connus et commentés depuis les deux conférences qu'il donne le 8 février et le 8 mars 1865 à la Société des sciences naturelles de Brno, société dont il est l'un des cofondateurs. Mais sa présentation, basée sur des relations statistiques et mathématiques et non plus sur des illustrations botaniques, a de quoi surprendre et ils sont sans doute peu nombreux à en réaliser la portée.
Il y a une écoute, on va dire, attentive et respectueuse, mais un peu étonnée de l'auditoire. Et puis, voilà, ça reste un petit peu en suspens parce que les auditeurs et puis les gens à qui ce mémoire est envoyé n'y prêtent pas l'attention que ça mérite.
De l'ordre, messieurs, le résultat de mes travaux. Ils n'ont rien compris, il faudra trouver autre chose.
Les deux présentations donnent lieu à des publications. Son article « Recherche sur des hybrides végétaux » paru en 1866 est envoyé à tous les grands centres scientifiques européens et Gregor Mendel voyage, par exemple à Londres et à Paris, pour présenter les résultats de ses expériences. Ses travaux sont parfois cités, mais restent relativement confidentiels. Ainsi, Charles Auffray, s'appuyant sur les écrits des biographes de Charles Darwin, qui a publié en 1859 « De l'origine des espèces », relate que ce dernier a reçu l'ouvrage de Mendel, mais ne l'a jamais ouvert. La rencontre intellectuelle entre les deux hommes, l'un pionnier de l'évolution et l'autre des lois de l'hérédité, n'a ainsi jamais eu lieu.
En fouillant un petit peu, j'ai retrouvé deux choses qui sont quand même caractéristiques du débat, là. Le premier, c'est que le mot génétique, G-E-N-E-T-I-K en allemand, il apparaît pour la première fois dans l'origine des espèces de Charles Darwin. C'est un terme qui n'est jamais employé par Mendel. C'est une des raisons qui fait qu'on a ensuite raconté que ça avait été redécouvert 35 ans plus tard. Puis la deuxième, c'est que dans l'ouvrage de Darwin sur les plantes, on retrouve une section dans laquelle il décrit très exactement les mêmes types d'expériences que celles de Mendel, avec très exactement les mêmes proportions, sauf qu'il ne prête pas attention au sens de ces proportions. Et comme il n'a pas lu le mémoire de Mendel, il ne fait pas le lien avec les bases de ce qui va devenir la théorie de l'hérédité.
Les recherches de Mendel devront donc attendre un peu pour gagner leur lettre de noblesse.
Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que, de manière indépendante, trois botanistes qui eux-mêmes ont fait des travaux similaires et qui connaissent le travail de Mendel, reconstituent à partir de leurs propres travaux. Ils reproduisent en fait le travail de Mendel, ils reviennent à l'interprétation de Mendel en laissant de côté les idées dominantes qui ont pu être débattues dans les années 1870, 80, 90.
Mendel s'était alors déjà éteint. C'était en 1884, à l'âge de 61 ans. Durant les dernières années de sa vie, il avait d'ailleurs délaissé ses recherches sur l'hybridation. Devenu supérieur du couvent, il avait moins de temps à consacrer à ce type de travaux, bien qu'il en ait lancé de nouveaux dans le domaine, par exemple, de l'apiculture. Surtout, il s'est laissé aller à son péché mignon, la météorologie. Et sur les 13 publications dont Mendel est l'auteur, 9 s'intéressent à ce domaine. C'est plutôt d'ailleurs pour cette facette de l'illustre bonhomme que la station scientifique antarctique tchèque porte aujourd'hui son nom. Merci à Charles Auffray d'avoir répondu à nos questions et notons que les quelques extraits utilisés pour cet article sont tirés de l'épisode consacré à Gregor Mendel dans la remarquable série animée d'Albert Barillet « Il était une fois les découvreurs ».
Et ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous a été présenté par Lucia Drexelova. Retrouvez tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Ahoy.